Vous écoutez, on lit pour vous.
Refuser un chien d'assistance, une pratique illégale qui persiste au Québec, un texte de Louis Gagné, paru le 7 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Une entreprise immobilière de Québec et sa gestionnaire devront verser 7 000 $ à une femme à qui elles ont refusé de louer un logement en raison de son chien d'assistance, tranche le Tribunal des droits de la personne. Une histoire qui démontre que le rôle des animaux utilisés pour pallier un handicap demeure souvent méconnu ou incompris du grand public. L'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne interdit toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap, qu'il s'agisse d'un fauteuil roulant, d'un chien guide, d'une prothèse ou, dans le cas présent, d'un chien d'assistance. Cynthia Martin-Desgagnés souffre d'un trouble de stress post-traumatique. Pour l'aider à gérer ses symptômes anxieux et à briser l'isolement dans lequel son problème de santé médicale l'a enfermé, elle a recours à un chien d'assistance. L'animal, un American Staffordshire Terrier nommé Raziel, a été entraîné par l'organisme Anakim Assistance, qui se spécialise dans l'éducation des chiens d'assistance en santé mentale et en troubles du spectre de l'autisme. Madame Martin-Desgagnés affirme qu'elle ne peut fonctionner normalement sans Raziel. « Ma chienne gère les symptômes de dissociation en lien avec mon trouble de stress post-traumatique. Quand ça commence, elle va beaucoup me toucher avec son museau ou me lécher la jambe pour me faire sentir. Et il y a quelque chose qui se passe. Donc, à ce moment-là, je vais beaucoup plus me recentrer vers moi. Ellipse. Ça m'est impossible de sortir sans elle. » dit la jeune femme en entrevue à Radio-Canada. Refus. À l'automne 2022, elle s'est vue refuser un logement offert en location par l'entreprise 9444-0831 Québec en raison de sa chienne. La copropriétaire de la société immobilière et responsable des locations, Alison Turcotte-Cloutier, a indiqué à Mme Martin-Desgagnés que les chiens pesant plus de 20 livres, Raziel en pèse 50, n'était pas admis et que pour déroger à cette règle, l'animal devait servir à pallier l'un des handicaps applicables, lesquels n'incluent pas le stress post-traumatique. On m'a répondu que mon diagnostic n'était pas suffisant, vu que ce n'était pas de la cécité ou de la surdité, ou que je n'étais pas autiste, raconte la propriétaire de Raziel. Pourtant, les tribunaux québécois ont à maintes reprises reconnu que d'autres handicaps peuvent requérir l'utilisation d'un chien d'assistance. Le Tribunal des droits de la personne a d'ailleurs jugé que l'affirmation de Mme Turcotte-Cloutier sur les handicaps applicables était erronée et contraire à la loi ainsi qu'à la jurisprudence. La propriétaire immobilière, qui dit avoir par le passé agi comme bénévole pour la Fondation Mira, a également expliqué son refus par le fait que les chiens de race American Staffordshire Terrier ne sont généralement pas reconnus comme des chiens d'assistance. Elle a fait valoir qu'en raison de leur puissante mâchoire, ces chiens, souvent confondus à tort avec ceux de type pitbull, peuvent causer de graves blessures en cas de morsure. Une affaire de comportement. La fondatrice et directrice d'Anakim Assistance, Sonia Bayarjon, qui a personnellement entraîné Raziel, affirme que ce n'est pas tant la race du chien qui importe, mais plutôt son comportement. « J'ai des labradors qui ne sont pas capables de faire la job. J'ai des bouviers bernois pour qui c'est plus dur de faire la job. Pourtant, ce sont des chiens typiques utilisés habituellement. C'est vraiment le tempérament du chien qui va nous dire si oui ou non il peut être chien d'assistance », explique-t-elle. Madame Bayarjon ajoute que certains chiens sont plus anxieux que d'autres et pourraient avoir peur des réactions de leurs bénéficiaires en cas de crise. Elle ne croit pas, à titre d'exemple, qu'un bouvier bernois, un chien facilement anxieux, aurait été un animal de prédilection pour Cynthia Martin-Desgagnés en proie à des épisodes dissociatifs. Lors de ses échanges avec Alison Turcotte-Cloutier à l'automne 2022, la propriétaire de Raziel a offert de lui fournir les coordonnées de Sonia Bayarjon et de son organisme pour qu'elle puisse s'informer davantage sur son animal et l'entraînement qu'il a suivi, mais en vain. La gestionnaire a fini par lui annoncer que le logement qu'elle convoitait avait été loué. Poursuite. Estimant avoir été victime d'une discrimination fondée sur le moyen de pallier son handicap, Cynthia Martin-Desgagnés a porté plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Après avoir obtenu une décision favorable, elle a soumis le dossier au Tribunal des droits de la personne. Dans une décision rendue le 17 juillet dernier, le tribunal a conclu que la jeune femme avait bel et bien été victime de discrimination fondée sur le moyen de pallier son handicap. Il n'a pas retenu les arguments avancés par Mme Turcotte-Cloutier pour justifier son refus. Lors de l'audience, cette dernière a raconté que peu de temps après avoir été contactée par Cynthia Martin-Desgagnés, son entreprise avait accepté un chien d'assistance pesant plus de 30 livres et que celui-ci avait mordu 2 personnes en 1 mois. Elle a prétendu que les locataires de l'immeuble étaient terrifiés et menaçaient de déménager si d'autres chiens y étaient admis. Madame Turcotte-Cloutier n'a cependant fourni aucune preuve de ce qu'elle a avancé, que ce soit la prétendue terreur des locataires ou la dangerosité alléguée de la race du chien de Madame Martin-Desgagnés. Aux yeux du tribunal, elle n'a pas réussi à démontrer que l'accommodement visé, soit l'acceptation de l'animal, correspondait à une contrainte excessive. Une contrainte excessive est plus qu'un inconvénient ou un risque financier potentiel. Elle s'apparente à un fardeau excessif, à un risque grave ou à un coût exorbitant. La justification avancée par Mme Turcotte-Cloutier est loin de constituer une contrainte excessive, même si elle était prouvée, a précisé le tribunal. Il a donc condamné la gestionnaire et son entreprise à payer solidairement à Cynthia Martin-Desgagnés la somme de 6 000 $ avec intérêt légal pour préjudice moral. Le tribunal les a également condamnés à payer chacune la somme de 500 $ avec intérêt légal à titre de dommages-intérêts punitifs. Les deux parties défendresses ont aussi été condamnées solidairement aux frais de justice. Vous écoutez « Refuser un chien d'assistance, une pratique illégale qui persiste au Québec », un texte de Louis Gagné, paru le 7 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Désaccord. Alison Turcotte-Cloutier et son entreprise ont décliné la demande d'entrevue de Radio-Canada. Leur avocat, Maître Guillaume Lavoie, a indiqué que ses clientes n'étaient pas en accord avec certains des aspects de la décision, notamment sur le fait qu'aucune mention n'est faite de plusieurs plaintes ayant été faites par la plaignante envers plusieurs propriétaires et sur le fait que plus de 20 propriétaires lui auraient refusé un logis. Malgré leurs réserves à l'endroit de certains éléments de la décision rendue par le Tribunal des droits de la personne, Mme Turcotte-Cloutier et sa société n'ont pas l'intention d'interjeter appel, vu l'enjeu monétaire, précise leur avocat. Mes clientes sont d'avis que bien que le tribunal a conclu qu'elles auraient pu agir différemment avec les paramètres fixés par la jurisprudence, leur conduite n'a jamais été empreinte de mauvaise foi et de désir de nuire à Mme Martin-Desgagnés, indique Maître Lavoie dans un courriel à Radio-Canada. Il ajoute que ses clientes n'ont jamais voulu empêcher la plaignante de pallier son handicap et qu'elles sont sensibles à cet argument. L'avocat mentionne que Mme Turcotte-Cloutier a elle-même un handicap physique, tout comme son père. Encadrement à revoir. Maître Lavoie et ses clientes croient qu'un meilleur encadrement des chiens d'assistance serait souhaitable et que cela pourrait entre autres passer par l'établissement d'un registre des chiens d'assistance et d'un registre des personnes ayant un état de santé nécessitant une telle mesure. En effet, trop souvent, les chiens d'assistance deviennent une expression quelque peu galvaudée qui regroupe des chiens de soutien émotionnel au même titre que de réels chiens d'assistance. Un registre à ce sujet, auquel seules les parties prenantes en matière de location auraient accès, permettrait d'éviter des situations ambiguës qui sont néfastes autant aux locataires qu'aux propriétaires d'immeubles, fait valoir l'avocat. Cynthia Martin-Desgagnés dit avoir souffert des refus qu'elle a essuyés dans ses recherches pour trouver un nouveau logement en 2022. « C'est quelque chose qui m'a fait faire une grosse chute psychologique, ellipse, parce que je me sentais prisonnière. J'étais enfermée chez nous. C'était des refus partout », se souvient-elle. La jeune femme raconte qu'elle n'avait pas le luxe de choisir de ne pas déménager. Blessée à un pied dans un grave accident de travail survenu en 2019, elle ne pouvait plus habiter son logement à paliers multiples. Bloquer un chien à l'entrée d'un commerce ou à l'obtention d'un appartement, c'est aussi emprisonner le bénéficiaire qui en a besoin de son chien. Une citation de Cynthia Martin-Desgagnés. Madame Martin Desgagnés croit que les droits et obligations à l'égard des chiens d'assistance et de leurs bénéficiaires gagneraient à être clarifiés et mieux promus au sein de la société. En matière automobile, par exemple, les règlements sur la sécurité routière sont là, ils sont clairs. Ça s'applique à tout le monde, puis personne ne peut y déroger, tandis que les droits de la personne en matière de handicap ou en matière de moyens pour y pallier, comme un chien d'assistance ou une chaise roulante, ce n'est pas spécifié nulle part, sauf dans la Charte des droits et libertés, dit-elle. Le gouvernement du Québec est conscient des difficultés auxquelles se butent les propriétaires de chiens d'assistance. À l'automne 2023, il a mis sur pied un comité de réflexion interministériel portant sur la reconnaissance des chiens d'assistance au Québec. Confusion. Dans un rapport déposé au ministre responsable des services sociaux en juin 2024, le comité a conclu que le statu quo n'est pas souhaitable et que l'État doit se positionner. Les enjeux d'accès aux lieux publics pour les personnes utilisant un chien d'assistance pour pallier leur handicap sont encore trop nombreux et la confusion quant à leur identification demeure trop importante pour ne pas y accorder l'attention requise, peut-on lire dans le rapport. Sonia Baillargeon constate que les propriétaires d'immeubles locatifs et de commerces sont nombreux à ignorer qu'il est illégal de discriminer les personnes utilisant un chien d'assistance. Ces dernières se voient régulièrement refuser l'accès à certains lieux, même après avoir présenté une attestation ou une carte délivrée par une école de dressage. Les gens ne nous croient pas. On peut vraiment poursuivre pour ça, mais les gens ne nous croient pas jusqu'à temps qu'ils reçoivent une belle lettre. Ellipse. Interdire l'accès à un chien, c'est comme si tu disais à quelqu'un qui est en chaise roulante, « Tu vas laisser ta chaise roulante à l'entrée. » La personne ne peut plus rien faire. Bien, c'est la même chose quant à un chien d'assistance et malheureusement, j'en vois beaucoup trop des situations comme celle-là, déplore Mme Baillargeon. On doit même se battre pour faire entrer nos chiens dans les écoles, puis je ne suis pas la seule. C'est le cas de toutes les compagnies comme la mienne. On doit tous se battre pour faire entrer nos chiens. Une citation de Sonia Baillargeon, directrice Anakim Assistance. Même si le cas de Cynthia Martin Desgagnés démontre que les propriétaires de chiens d'assistance peuvent obtenir justice et réparation après avoir été victimes de discrimination, ils sont relativement peu nombreux à exercer un tel recours qui s'apparente bien souvent à un parcours du combattant. N'eût été d'un membre de sa famille qui travaille dans le domaine du droit, de l'aide de Sonia Baillargeon et du travail de deux avocates ayant accepté de l'aider bénévolement à monter son dossier, Madame Martin Desgagnés n'aurait probablement pas eu l'idée ni les moyens d'entamer des recours judiciaires. Sans ce soutien-là, moi, je pense que j'aurais perdu le Nord facilement. Les deux avocates pro bono et Sonia, de l'organisme, ont fait beaucoup de démarches pour moi parce que je n'étais pas capable de les faire, dit-elle. La jeune femme invite les personnes dans sa situation à sortir de l'isolement et à aller chercher le soutien dont elles ont besoin, par exemple en se joignant à des groupes de bénéficiaires sur Internet ou en demandant conseil à l'organisme ayant formé leur chien. S'informer. Sonia Baillargeon encourage pour sa part les propriétaires d'immeubles et de commerces à s'informer auprès des écoles de dressage comme la sienne avant de refuser l'accès à un chien d'assistance. On va être content de répondre à leurs questions, même si ce n'est pas pour un de nos bénéficiaires, assure la directrice d'Anakim Assistance. Il y en a qui vont m'appeler pour connaître les règlements, savoir ce qu'ils ont droit de faire, s'ils peuvent refuser un bénéficiaire. Souvent, ils m'appellent même si le chien d'assistance à qui ils ont affaire ne vient pas de chez moi parce qu'ils connaissent le nom de mon entreprise. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse reçoit en moyenne 55 plaintes par année déposées par des propriétaires de chiens d'assistance à qui on a refusé l'accès à certains lieux. Entre 2017-2018 et 2023-2024, le nombre de plaintes a augmenté de 65 %. C'était « Refuser un chien d'assistance, une pratique illégale qui persiste au Québec », un texte de Louis Gagné, paru le 7 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Michel Cordé, « Au-delà des apparences ». Un texte de Patricia Tadros, paru le 10 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Michel Cordé a été révélé au grand public grâce à son rôle dans la série Vestiaire. Et peut-être plus encore grâce au numéro présenté au gala Les Oliviers en mars dernier avec les comédiennes Charlie Rousseau et Marie-Christine Ricciuolo. Dans l'hilarant numéro, les trois comédiens en situation de handicap font preuve d'autodérision face aux défis qu'ils doivent surmonter. On se souvient de l'enveloppe tombée au sol qu'aucun des trois n'était en mesure de ramasser. « C'était spectaculaire de vivre ça », lance Michel Cordé. « Je pense qu'on est monté à pas loin de 2 millions de vues sur TikTok », se réjouit le comédien originaire de Québec. Né avec une ostéogenèse imparfaite, une maladie génétique également appelée « maladie des os de verre », Michel Cordé a toujours rêvé de jouer. Pendant ses années à l'école secondaire de Rochebelle à Sainte-Foy, il a pu s'initier au théâtre. Ce fut donc une belle surprise lorsqu'il a reçu une invitation pour une audition en décembre 2022. « Ils m'ont trouvé par hasard grâce aux capsules que je mettais sur YouTube », explique-t-il. Les capsules, tutoriels avec Michel, racontent avec humour les péripéties de la vie en fauteuil roulant. Cependant, travailler comme comédien ne semblait pas être un rêve atteignable pour celui qui se déplace en fauteuil roulant. À l'époque, j'avais des amis qui faisaient des auditions pour le conservatoire. Dans ma tête à moi, je me disais que ça n'en valait pas la peine, dit-il. Il choisit la concentration cinéma au Cégep Garneau et touche à la réalisation et au montage. Ce dernier deviendra son gagne-pain. Durant mes années de cégep, j'étais très conscient que je partais avec un pas de recul, dans le sens où je savais qu'il fallait que je fasse mes preuves, que je montre ce que j'étais capable de faire. Je n'ai pas attendu qu'on me propose de faire des films dans le cadre des cours. L'un de ses professeurs, André Caron, se souvient très bien de lui. « Michel, c'est un génie », l'ont-ils dit d'emblée. « Michel, c'est plus qu'un acteur ». C'est un scénariste, un réalisateur, c'est un monteur. Je te le dis, c'est un génie, ce gars-là. C'est juste que la condition physique dans laquelle il est le désavantage au niveau des perceptions, croit M. Caron. Michel Cordé est sensible au fait qu'ils doivent travailler plus fort pour prouver qu'il a sa place dans le milieu de l'audiovisuel. Celui qui aura 40 ans le 15 septembre n'a jamais attendu qu'on vienne à lui. « J'ai toujours été un autodidacte qui apprenait très vite », précise-t-il. « Je pense que c'est dans ma nature de personne qui vit avec un handicap, c'est-à-dire de tout le temps essayer de trouver des solutions pour m'adapter au contexte. » Le handicap ne l'a jamais freiné, mais il constate avec le recul que cela a probablement retardé une partie de son parcours. « Je voyais beaucoup d'amis dans mon entourage qui avaient les carrières que je voulais », mentionne-t-il. « Je me sentais un petit peu coincé dans mes limites physiques, dans mes contraintes, et j'avais l'impression que ça retardait un peu mon potentiel », raconte-t-il. À partir de 2012, il a été monteur pour diverses émissions, dont celle d'Attraction Images. Encore aujourd'hui, il fait du montage à l'occasion, notamment sur Vestiaire. Le montage, je l'ai toujours vu comme une espèce de travail temporaire pour gagner ma vie en attendant que mes autres projets débloquent, mentionne-t-il. Des projets en réalisation l'attendent. C'est ce qu'il a toujours souhaité. Son premier court-métrage, intitulé « La saison des prix Nobel », qui a été filmé l'hiver dernier avec une partie de l'équipe de Vestiaire, devrait sortir en 2026. J'ai commencé à faire du montage parce que je savais que c'était peut-être la porte d'entrée la plus facile pour moi parce que je ne pouvais pas faire de technique sur les plateaux, explique Michel Cordé. Mais c'est sûr que le but, ça a toujours été de réaliser, précise-t-il. Les portes s'ouvrent sur son chemin et le comédien et cinéaste pense que le timing y est pour quelque chose, qu'il y a une ouverture qu'on voyait moins avant. Il reçoit, par ailleurs, beaucoup de témoignages de personnes avec des limites physiques qui sont reconnaissantes que la série Vestiaire les représente à l'écran. Aujourd'hui, on espère qu'il va y avoir de plus en plus de rôles et d'espaces pour les personnes handicapées dans les séries un peu partout, dit Michel Cordé. Depuis 2 ans, il participe à des soirées d'humour, une autre corde à son arc. Il aime la scène et a même été invité cet été par Dominique Sillon au Festival Juste pour rire Québec pour qu'ils y présentent un numéro ensemble. La seule chose qui me fait un petit peu douter au niveau de l'humour, c'est que ce n'est pas un milieu très accessible physiquement, dit-il. Si la majorité des salles de spectacle sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, il est plus difficile de s'y déplacer quand on est de l'autre côté du rideau, comme l'a constaté Michel Cordé à quelques reprises. « C'est arrivé que la loge ne soit pas accessible, précise-t-il. Je suis donc obligé de passer le spectacle complet en coulisses, dit-il. C'est tout cet aspect-là que je me demande un peu, bon, si je continue là-dedans. J'ai-tu vraiment envie de vivre ça? Il donne en exemple le cabaret du Casino de Montréal, où il est resté coincé en coulisses sans avoir accès aux loges. Une série comme Vestiaire, diffusée sur 3 plateformes, Ami Télé, Tout.tv et Ici Télé, et qui présente plusieurs visages de personnes vivantes avec un handicap, permet de changer les perceptions petit à petit et de créer un dialogue. Des fois, ça prend juste cette petite porte-là pour commencer une conversation avec les gens, souligne-t-il. C'était Michel Cordé au-delà des apparences, un texte de Patricia Tadros, paru le 10 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Malbouffe, l'obésité dépasse désormais la sous-nutrition chez les enfants et les ados, un texte de la rédaction paru le 10 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada. L'obésité s'est envolée ces dernières années chez les enfants et les adolescents, matraqués par la publicité pour la malbouffe, devenant même cette année la première forme de malnutrition chez les 5-19 ans dans le monde, devant la sous-alimentation, alerte mardi l'UNICEF. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de malnutrition, nous ne faisons plus uniquement référence aux enfants présentant une insuffisance pondérale, dit la patronne de l'agence onusienne, Catherine Russell. L'obésité est un problème de plus en plus préoccupant, qui peut avoir des répercussions sur la santé et le développement des enfants. Alors que la lutte pour réduire la faim dans le monde porte en partie ses fruits, la prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants et les adolescents suit une pente descendante, passant de 13 à 10% entre 2000 et 2022 chez les 5-19 ans, selon des données récoltées dans 190 pays. Mais sur la même période, le surpoids est monté en flèche, le nombre des 5-19 ans touchés doublant entre 2000 et 2022, soit de 194 à 391 millions. Et la hausse est encore plus marquée pour l'obésité, forme plus grave du surpoids associée à des désordres métaboliques comme le diabète et à certains cancers, et parfois accompagnée d'une faible estime de soi, d'anxiété et de dépression. Ainsi, en 2022, 8% des 5-19 ans dans le monde, 163 millions, souffraient d'obésité, contre 3% en 2000. Échec de la société. Sur la base des deux tendances inverses, l'UNICEF estime que 2025 marque un tournant historique. Pour la première fois, la prévalence mondiale de l'obésité chez les enfants et adolescents en âge scolaire dépasse celle de l'insuffisance pondérale, 9,4% contre 9,2%. Ainsi, 188 millions d'enfants et adolescents de 5 à 19 ans vivent avec cette maladie chronique, selon ses projections. Premier coupable, un environnement toxique créé par l'industrie des aliments ultra-transformés et ses pratiques commerciales contraires à l'éthique, destinées à faire des profits, mettent en cause l'UNICEF. Les enfants sont bombardés par le marketing alimentaire malsain, y compris à l'école, où sont exposées boissons très sucrées ou en cas transformés pauvres en nutriments, explique à l'AFP Catherine Schatz, une des auteurs du rapport. Des produits souvent moins chers que les aliments frais, fruits, légumes ou protéines, qu'ils remplacent petit à petit dans le régime alimentaire des familles. Mais l'UNICEF insiste, la faute n'en revient ni aux enfants ni à leurs familles, mais à un échec de la société. L'agence rejette aussi le mythe autour du sport. Il est impossible d'échapper aux conséquences sur la santé de la malbouffe seulement par l'activité physique. Urgent. Historiquement, la prévalence du surpoids chez les enfants et les adolescents était plus importante dans les pays développés. Elle reste élevée, par exemple, au Chili, 27 % des 5-19 ans, ou aux États-Unis, 21 %. Mais depuis 2000, l'écart entre pays riches et pauvres se réduit, avec des taux d'obésité qui s'envolent dans certaines îles du Pacifique, où les importations remplacent les produits traditionnels, comme Niue, 38 %, les îles Cook, 37 %, ou Nauru, 33 %. Et pour certains pays, c'est la double peine, avec la coexistence de la sous-nutrition et de l'obésité. Comme dans certaines zones en crise humanitaire où des grandes entreprises du secteur donnent de grandes quantités de malbouffe pour promouvoir leur image et où des enfants qui ont faim se retrouvent à n'avoir accès qu'à des aliments néfastes pour leur santé, déplore Catherine Schatz. Il est urgent d'instaurer des politiques qui aident les parents et les personnes s'occupant d'enfants à accéder à des aliments nutritifs et sains, lance Catherine Russell. L'UNICEF appelle notamment les gouvernements à des mesures contraignantes, comme des restrictions publicitaires, des taxes sur les boissons sucrées et aliments néfastes, un meilleur étiquetage diététique ou des politiques pour réorienter le système agroalimentaire vers la production de produits frais. C'était Malbouffe. L'obésité dépasse désormais la sous-nutrition chez les enfants et les ados, un texte de la rédaction paru le 10 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada.